Bonjour chers auditeurs et bienvenue au panorama économique de ce week-end. Agathe Mpona, Elema et Daniel Tambinzoni vous le présentent. Bonjour Daniel.
Bonjour Agathe.
Au sommaire de votre magazine, des dossiers, des reportages, une rubrique matière première. La journée internationale du travail, c'était le 1er mai dernier. Les travailleurs de Kinshasa ont exprimé au micro de notre reporter l'espoir mais aussi leur pessimisme concernant l'avenir de leurs conditions professionnelles. Nous en reparlerons. Les torchons brûlent au CEEC. Le syndicat de ce service public accuse la direction d'être l'auteur d'une gabegie financière au sein de l'institution. La direction, de son côté, reste sur la défensive et nie les faits. Dans la rubrique matière première, nous reviendrons sur la hausse du prix de l'eau à Guémena dans la province de l'Équateur. Autant de sujets sur lesquels nous reviendrons dans cette rétrospective de l'actualité économique de la semaine. Et comme tous les week-ends, nous aurons un invité au studio pour commenter et analyser cette actualité. Aujourd'hui, notre invité est le professeur Munkeni Florent. Il est prof d'économie à l'université de Kinshasa. Il est docteur de l'université de Louvain. Il est ancien économiste international au programme des Nations Unies pour le développement. Il a travaillé longuement et plusieurs années dans plusieurs cabinets ministériels en tant qu'économiste. Et il est avec nous dans ce studio. Il nous a fait l'honneur de sa présence. Bonjour, professeur.
Bonjour.
Paul Badianyama assure la partie technique. Tout de suite, les dossiers de la semaine.
Panorama économique, le dossier.
Le premier dossier de la semaine revient sur la fête internationale du travail. Vous le savez, c'était le mardi dernier. Et cette journée était placée sous le thème « Bâtir l'avenir par un travail décent ». Une ambiance de festivité qui a été vécue par notre reporter. Il a rencontré à Kinshasa plusieurs catégories de travailleurs évoluant dans les milieux privés et étatiques. Dans quel esprit les travailleurs de Kinshasa ont commémoré le 1er mai de cette année? Réponse dans ce reportage signé Daniel Tambinzoni.
Le président de la Confédération syndicale du Congo a profité de l'occasion pour rappeler à l'autorité que les travailleurs des lignes aériennes congolaises totalisaient 201 mois d'arriérés de salaire et qu'il fallait accélérer la paie des retraités avec le financement déjà acquis de la Banque mondiale.
Aujourd'hui, la fête du travail, nous sommes là juste par formalité. On va être enfamé, mais on vient quand même fêter par formalité.
Qui commence bien, qui finit bien. Et je sais bien que cette année, tout le monde sera content.
Qu'est-ce qui a bien commencé?
Ça a commencé puisqu'avec le nouveau gouvernement que nous en avons, on a l'espoir qu'il y aura un changement. Alors, c'est ça. Ça a bien commencé.
Trop de pessimisme mélangé à un peu d'espoir quant à l'avenir heureux du travailleur congolais. C'est le sentiment qui a caractérisé plus d'un travailleur rencontré à Kinshasa lors du défilé. Pour certains, le thème de l'année n'est qu'un slogan.
Le gouvernement essaie un peu de voir dans le secteur industriel, dans le privé. Est-ce que le SMIC a été respecté?
Ton cas par exemple, dans ton entreprise, le SMIC n'est pas respecté?
Rien du tout, je dis, rien du tout. Nous sommes là par complaisance, juste parce qu'il n'y a pas de travail. Mais l'État congolais doit revoir le SMIC pour le bien-être de tout Congolais.
Construire l'avenir par un travail décent, c'est le thème de cette année pour la RDC. Qu'est-ce que vous attendez?
Bon, un travail décent, un travail productif, hein. Les travailleurs doivent être motivés pour qu'il y ait tout ce que nous cherchons là.
Une troisième frange de travailleurs garde encore l'espoir pour un avenir heureux.
Et l'État est allé monter même des journalistes pour être monstre à haute salut pour ça là. L'homme n'a encore beaucoup de salam alam.
Le président de l'intersyndicale des travailleurs a entre autres demandé au ministre du Travail d'abroger toutes les mesures prises en violation des droits des travailleurs et celui-ci a promis de prendre en compte les revendications des salariés parmi lesquelles la convention de Mboudi contenue dans le cahier de charges soumis au gouvernement.
Nous retrouvons le professeur Munkeni dans ce studio. C'est avec lui que nous commentons et analysons l'actualité économique, cette actualité qui commence, bon, disons dans ce magazine, par le 1er mai. Professeur, quelle lecture faire de la situation professionnelle des Congolais?
D'abord, je vais commencer par constater avec joie que la fête n'a pas été que la fête. Le 1er mai n'a pas été que la fête. Généralement, ici, chez nous, tout est dans la fête. Je vois qu'en marge de cette fête-là, les gens ont réfléchi sur les conditions sociales des travailleurs, ce qui est une bonne chose. On a vu, par exemple, la commémoration de la journée de la femme. Tout était dans la fête.
Et dans l'Espagne.
Voilà. Donc, pour une fois, il y a une réflexion sur de fond, sur les conditions de travail, et ça, c'est une bonne chose. Moi, je crois que l'un des intervenants l'a souligné. Le problème, c'est un problème de respect de nos législations. On a mis en place le salaire minimum, le SMIC, qui n'est pas appliqué. Or, toutes les analyses maintenant le démontrent, l'application, la détermination d'un salaire minimal permet d'éviter justement aux travailleurs de tomber dans ce qu'on appelle la pauvreté. Parce que justement, c'est un salaire qui garantit que chacun va fournir un travail et qui sera rémunéré et qui lui permettra de ne pas faire autre chose, soit de ne plus travailler, soit de verser dans la violence, etc. Donc tout cela est démontré maintenant, contrairement aux analyses économiques antérieures qui montraient que si vous fixez un salaire minimal, ça conduit au chômage. Au contraire maintenant, on considère qu'en fixant un salaire minimal, ça permet aux gens de ne pas tomber dans le chômage, de ne pas tomber dans la violence. Mais le problème, c'est une chose est de fixer un salaire minimal, une autre chose,
c'est de respecter
ça. Et ce qui n'est pas le cas dans notre pays. Et c'était une bonne idée, mais c'est pas respecté.
C'est resté une idée sur papier. Absolument. Vous êtes professeur d'université et tout à l'heure, avant l'émission, vous disiez que vous aviez choisi de rater votre vie en devenant professeur d'université.
Au Congo.
Congo.
C'est dire que ce travail ne vous paye pas comme espéré.
Pas suffisamment. Justement, si on avait établi, si on avait fixé un salaire minimal, ça permet de construire l'échelle des autres salaires.
C'est 3 dollars le jour en RDC. Ouais, ouais. Est-ce que c'est beaucoup, c'est moins par rapport aux autres?
Quand on l'a fixé, c'était significatif. Du moins, si on met 3 dollars par jour, vous travaillez dans les Nations Unies, vous savez que le seuil de pauvreté, c'est en dessous de 2 dollars. Ouais. Donc, ça permet de... Quand on l'a fixé. Maintenant, je ne sais pas s'il faut refaire les calculs.
Deuxième dossier de la semaine, Panorama économique revient sur le conflit entre les syndicalistes du CEEC et le comité de direction.
Le syndicat crie à la mégestion, caractérisée par la mauvaise orientation des ressources tant humaines que financières et une gabegie financière indescriptible. Les faits expliquant cette mégestion sont contenus dans un document du syndicat CEEC adressé au ministère des Mines. Les détails avec Mila Kimbuni.
Les syndicalistes CEC évoquent dans ce document le crédit de 4 millions de dollars contracté par la Rabobank pour l'achat d'un immeuble pour le CEC, cet immeuble qui ne répondrait pas aux besoins de la société. Ils parlent aussi des avantages indus perçus par les dirigeants, 30 000 dollars comme frais d'installation du DG et de son adjoint, 100 000 dollars d'honoraires versés aux avocats lors de l'achat de l'immeuble serait excessif. La mégestion, selon les syndicalistes, se justifierait également par la dette de 12 millions de dollars que le CEEC devra payer à ses créanciers. Autre chose reprochée au comité de direction, c'est la gestion concomitante du DG et de son adjoint. Le premier qui ordonne un paiement est tout de suite contesté par le second. Il faut dire qu'une partie des syndicalistes n'a pas signé le document accusateur. Ceux qui l'ont signé ont été suspendus de leur fonction. Les démarches en vue de leur révocation ont même déjà été entamées.
Et en réaction à cela, le DG Alexis Mikanji, dont la gestion est mise en cause, a donné de la voix à Radio Capi vendredi. Il ne reconnaît pas une mauvaise gestion au sein du CEEC, Daniel.
Même si mes gestions y avaient, a-t-il dit Alexis Mikanji, la dénonciation ne relèverait pas de la compétence des syndicalistes. Quant au document accusateur, le DG estime que c'est un document censé être tenu secret et interne à l'entreprise. Il a demandé à l'inspecteur de travail de statuer sur les cas et si les responsables sont rendus coupables de fautes lourdes, ils seront renvoyés. Alexis Mikanji.
Les 5 ont été suspendus parce que, premièrement, je considère que l'action qu'ils ont initiée ne rentre pas dans le cadre syndical.
Il y a même une lettre de leur révocation que nous avons vue, vous l'avez signée le 23 avril, alors que le dossier est devant la justice.
Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je n'ai pas
encore signé. Une lettre demandant leur révocation, nous l'avons vue, une copie qu'on nous a brandie.
Je pense que j'ai saisi l'inspecteur du travail. Et c'est dans mes prérogatives. Parce que je considère que la démarche des syndicalistes ne rentre pas dans l'action syndicale. Et des deux, j'estime à juste titre qu'ils ont mis dans la rue des documents qui sont censés être secrets. Des documents internes à la société. Ça constitue des fautes lourdes.
Ils seront révoqués pour fautes lourdes.
Si l'inspecteur l'autorise, ils le seront. Parce que je crois que les syndicalistes comprendront que la démarche syndicale a deux actions. Il y a premièrement la situation du personnel, son social, ses conditions de travail, sa rémunération, etc. Deuxièmement, l'outil du travail. Je pense que ça n'appelle aucun commentaire. Les éléments sont vérifiables.
Nous passerons vérifier tout cela. Revenons-en à l'intitulé même de ce document. Donc, gestion gabégique au CEC, pour en terminer, votre dernier mot par rapport à cela.
Non, je pense que c'est de la pure intox. Ce n'est même pas un fruit de l'ignorance. C'est un fruit de mauvaise foi. Parce que si un contrôle s'est fait au CEC, on va réaliser que rien de tout ceci...
Vous admettrez aujourd'hui l'audit, que l'audit se fasse?
Bien sûr. Mais quand on gère pourquoi? On doit rendre compte. Ça ne me ferait nullement.
Et voilà, vous avez suivi les deux intervenants. Professeur Munkeni, quel commentaire?
Oui. D'abord, comme dans tous nos conflits ou divergences au Congo, on ne sait pas établir la vérité parce qu'il y a deux sons de cloche qui s'annulent mutuellement. Deuxièmement, comme souvent dans plusieurs problèmes au Congo, on s'arrête à la forme. Tu vois, le responsable, qu'est-ce qu'il dit?
Il se défend plus par rapport à la forme.
Voilà, s'il ne devait pas faire ça, c'est pas dans... Mais il ne va pas au fond des choses. Moi, je crois que le fond de l'affaire, c'est la gestion de nos entreprises publiques. Et ça, c'est pas que les gestionnaires ne sont pas compétents, etc., mais c'est parce que les objectifs de nos entreprises publiques ne sont pas clairement définis. Quand on nomme quelqu'un, on l'envoie pas pour faire un travail de service public. On l'envoie pour qu'il ramène de l'argent à tous les parrains. Et lui-même accepte ça pour ses besoins personnels, son profit personnel. Il n'accepte pas ça comme une mission de service public. Il a plusieurs parrains, il doit ramener de l'argent, etc. C'est à ça que servent nos entreprises publiques. Il y a une réforme qui est en gestation depuis plusieurs années. Mm-hmm. Cette réforme-là peut mettre en place des mécanismes, des structures, etc., etc. Mais lorsque le choix des hommes se fait comme ça se fait maintenant, rien ne changera.
Donc pour vous, l'option qui avait été levée il y a quelques temps de faire de mettre à la place, à la tête des entreprises publiques des gens sous base de concours était plutôt bonne?
Absolument, mais tout de suite
ça n'a pas été le cas.
Voilà, le politique est revenu pour dire que non, nous avons gagné les élections ou bien nous sommes au pouvoir. Il n'est pas question de faire des concours, d'amener à la tête des entreprises publiques des gens qui ne sont pas de notre obédience.
Professeur, croyez-vous que c'est réaliste? Vous achetez un immeuble à 3 700 000 dollars et vous payez les honoraires de 100 000 dollars aux avocats?
Il faut voir les contrats, les termes de contrat. C'est pas normal, mais encore une fois, il l'a fait parce que justement, peut-être que là-dedans passe également un certain nombre de commissions et tout ça.
Mais entre-temps, l'emploi de ces syndicalistes est mis en jeu. Est-ce que justement, vous pensez que vraiment, du point de vue de la forme, ce syndicaliste qui a pris son courage à deux mains a péché?
Non, je ne pense pas. Justement, est-ce qu'il y aura une justice pour rétablir ces syndicalistes dans leurs droits? Je ne pense pas non plus. Ils n'ont pas... la justice ne devait pas s'arrêter justement comme... le fait le responsable sur la forme. Il devait aller au fond des choses pour dire que Écoutez, ils ont dénoncé une mauvaise gestion. Bon, il faut les juger sur cette base-là, pas sur la base de d'avoir violé je ne sais pas quelle loi de l'entreprise.
Vivement donc un audit au sein de cette institution.
Au Congo, l'économie de tous les jours, c'est l'affaire de tous. Chaque samedi à 12h30, heure de Kinshasa, Radio Okapi vous propose le panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'équilibre du monde rural, les bonnes initiatives, une nouvelle tendance. Reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 12h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC.
Et quelques nouvelles en bref dans ce panorama économique. La situation d'insécurité dans le Nord Kivu impacte le socio-économique.
À Goma, par exemple, les prix des vivres ont flambé. Le sac de 100 kilos de pommes de terre coûte actuellement 55$ alors qu'il devrait coûter entre 30 et 35$. Le sac de haricots de 100 kilos est passé de 55$ à 80, voire 130 selon les qualités. La population craint une famine si la situation perdure.
Et commerce de braise qui se porte plutôt bien à Sakania, cité frontalière au sud de Lubumbashi.
Les habitants de cette partie de la province du Katanga préfèrent aller vendre leurs marchandises en Zambie voisine plutôt que de les vendre sur place à Sakania. À Sakania, justement, le prix d'un sac varie entre 1000 et 1500 francs congolais, tandis qu'en Zambie voisine, le prix c'est l'équivalent de 4500 voire 5000 francs congolais. Ainsi, à vélo, les commerçants traversent chaque jour la frontière pour aller en Zambie et d'après eux, un vélo peut transporter jusqu'à 10 sacs de braise. Ils indiquent que les Zambiens apprécient beaucoup la qualité de braise produite au Congo, ce qui justifie la forte demande de ce produit sur le marché zambien.
Panorama économique, matière première.
Notre rubrique matière première est cette semaine consacrée à l'eau et à ce sujet à Guémena, district du Sud-Ubangi, la population est mécontente.
Elle s'insurge contre la majoration du prix de vente de l'eau de la régie des eaux. Un bidon de 25 litres qui se vendait à 120 francs congolais revient maintenant à 200 francs congolais. Cette situation a fait l'objet d'une réunion cette semaine entre les ONG des droits de l'homme et les notables de la cité de Guémena. Pour les détails.
Suite à cette situation, certains quartiers n'ont pas bénéficié de l'eau de la régie des eaux. La population en colère a détruit deux bornes fontaines. Les ONG des droits de l'homme ont aussitôt convoqué une réunion avec les notables de Guémena. Selon Papi Moroni, activiste des droits de l'homme, la population a un pouvoir d'achat très faible. Il ajoute qu'elle n'a pas été informée de la majoration brutale du prix du bidon d'eau. Pour sa part, l'administrateur du territoire de Guémena estime que, bien qu'étant une entreprise commerciale, la régie des eaux devait informer l'autorité de sa décision avant de l'appliquer. L'Atéjon Kabamba demande d'autre part à cette société de continuer avec l'ancien tarif en attendant de sensibiliser la population sur le changement qu'elle veut opérer. Le chef du centre de la régie des eaux Guémena, Robert Liwanda, justifie cette mesure par l'application de la TVA imposée par l'État à sa société. En plus, dit-il, l'actuel tarif date de 2010 alors que les prix des produits pétroliers ont connu depuis une augmentation sensible. Autre raison de cette majoration du prix d'eau, les difficultés liées à l'exploitation. Toutefois, indique Robert Liwanda, la proposition de l'administrateur du territoire est la bienvenue. Bandaka, Ghislaine Tobo, Radio Okapi.
Florent Munkeni, professeur, vous avez suivi l'eau de la régie des eaux qui augmente brusquement de prix dans une contrée comme Guémena. Et cette régie des eaux qui n'amène même pas de l'eau au robinet des Mbandake ou des, je sais pas comment on les appelle.
Des habitants de Guémena.
Voilà, qui livre de l'eau à partir des bornes fontaines, mais qui augmente le prix de l'eau. Comment vous analysez cela?
Encore une fois, d'abord, c'est pénible de voir que une denrée essentielle à la nutrition des populations est, voir que cette population n'a pas accès à ça. Ça, c'est, bon, c'est pas seulement Guémena. Je crois que on connaît le cas de Guémena, mais même ici à Kinshasa, c'est, il y a des problèmes de cette nature-là. Encore une fois, c'est un problème de gestion de nos entreprises publiques. Et pour le cas de la régie des eaux, comme le cas de la SNEL, Bon, ce sont des entreprises qui doivent rester en situation de monopole, c'est-à-dire qui doivent être les seules à produire l'électricité ou l'eau, parce que ce sont des substances, il faut les produire à grande échelle pour diminuer les coûts.
Et
à
un prix social,
voilà,
entre guillemets.
Mais ce qu'on demande, c'est que si la production doit être centralisée, mais la commercialisation, que ce soit décentralisée. C'est pas normal que le problème de commercialisation de l'eau à Guémena relève de la direction générale ici. C'est pas normal. Ailleurs, la distribution de l'eau, de l'électricité relève des petites structures au niveau même de la commune. Comme ça, on règle le problème. Alors, encore une fois, si on veut garder à tout prix le monopole de la régie des eaux et de la SNEL sur la distribution, il faudra alors, comme vous disiez tout à l'heure, un prix social. Normalement, on fait deux types de prix. Il y a un prix pour les catégories les plus faibles et un prix pour les catégories les plus élevées. Les entreprises ne doivent pas payer le même prix que les ménages, surtout les ménages pauvres. Or, qu'est-ce qu'on constate maintenant? C'est le forfait. Partout, c'est le forfait. Allez, tout le monde dans ce quartier-ci, voilà, paie autant. Ça, c'est d'abord, premièrement, il n'est pas sûr que tout le monde peut payer ce prix-là. Deuxièmement, ça n'incite pas nos compagnies-là à faire des efforts. Parce que qu'ils donnent l'électricité ou pas, vous allez payer le forfait.
Mais la transformation de la régie des eaux en société commerciale ou pas, c'était un débat houleux. On se souvient, il y a quelques mois, il y a des gens qui me pensaient comme vous que ça doit rester le monopole, d'autres qu'on doit privatiser, ainsi de suite. Mais maintenant, là, la régie des eaux doit produire des bénéfices. Elle se retrouve devant ce dilemme. Elle est démunie de moyens techniques. Elle doit être réhabilitée. Entre-temps, elle doit produire des bénéfices et on lui impose la TVA. Ouais. C'est quand même une situation assez compliquée.
Oui. Quand je parle de monopole, je ne dis pas que ça doit être le monopole de l'État.
Okay.
Ça peut être une entreprise privée, mais qui a le monopole de produire de
tout
l'eau, de l'électricité.
Ouais.
Voilà. Parce qu'il faut vraiment une grande échelle pour que le prix soit, le coût soit bas. Mais je parle de la commercialisation, la partie commerciale.
Oui.
Ça vraiment, il faut que ça soit au niveau de la commune, au niveau des provinces, et pas centralisé au niveau de l'État.
Mais comment rendre viable finalement une telle entreprise?
Justement, la décentralisation, par exemple, de la partie commerciale est un moyen de le rendre viable. Dans le sens que la direction générale ici, ou bien s'il y a une entreprise privée qui prend ça, n'a que des problèmes de production. Et il se limite à ça. Parce que maintenant, on voit qu'ils n'ont pas des capacités de faire...
une bonne distribution.
Voilà. Par exemple... je vous parlais tout à l'heure de différence de prix entre catégories. C'est pas une mince affaire. Il faut bien calculer ça. Il faut bien calculer, faire en sorte que le prix bas payé par les catégories sociales les plus faibles est compensé par le prix payé par
les industries, par exemple.
Mais pour cela, je pense c'est l'installation des compteurs, que ce soit de la régie des eaux, que ce soit de la SNEL, qui permettrait...
Absolument.
Oui, mais aujourd'hui, on constate malheureusement que ni la SNEL, ni la régie des eaux, personne n'a assez de compteurs, et c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, des factures forfaitaires.
Voilà.
Avoir consommé ou pas avoir consommé, vous payez. Et c'est ça qui pénalise.
C'est plus facile pour eux de venir collecter que vous ayez consommé
ou
que
pas.
D'aller voir le compteur et tout ça.
Voilà. Un autre aspect, c'est comme la consoeur qui a fait l'élément à la relever. Est-ce que c'est normal qu'une telle entreprise soit aussi soumise à la TVA?
Bon, moi, j'ai une... Normalement, je vois que la TVA n'a pas été imposée, par exemple, aux produits alimentaires, comme le lait et tout ça. Ça m'étonne que ce soit
appliqué
à l'eau.
Sur la consommation d'eau,
Ça m'étonne.
Panorama économique, reportage.
Les magasins, boutiques et le marché de Kasaji, chef-lieu du district de Lualaba, sont achalandés depuis quelques mois. Les prix de produits de première nécessité sont aussi en baisse. Raison avancée par les commerçants, le transport en commun entre Lubumbashi, Kolwezi et Kasaji est régulier, ce qui facilite l'approvisionnement en marchandises. Reportage de la semaine, signé Denise Maéo Moissi.
Trois fois par semaine, un grand bus part de Lubumbashi vers Kasaji avec des passagers et des marchandises. Deux autres grands bus font tous les jours Kolwezi-Kasaji. Il y a aussi des petits bus engagés sur ce tronçon. Ce trafic routier influe positivement sur les activités commerciales et sur le prix à Kasaji. Témoignage de Vasco, il est infirmier, habitant de Kasaji.
À partir de ces transports, maintenant, nous avons cette facilité d'avoir fait que le produit qu'on manquait ici chez nous. Bon, il y avait les œufs, les pommes, huile de table, Thomson. Maintenant, nous en avons en abondance. Et les prix aussi, le prix est quand même maintenu. Bon, mais ici chez nous, on achetait ça à 1500 francs. Mais maintenant, c'est à 500, 450. Une canette ici coûtait à 1800, 1700 et maintenant c'est 1200. Il y a aussi un impact dans de pharmacie. À partir de cette facilité, nous avons maintenant beaucoup de pharmacies qui naissent partout. Les antimalaria, par exemple, la quinine ici chez nous, on achetait à 500 francs les comprimés. Maintenant, c'est à 150, 200 francs.
Les commerçants de Kasaji s'en félicitent, car il y a quelque temps, une marchandise achetée à Lubumbashi mettait 3 à 5 mois avant d'arriver à destination. Didier est l'un de ces commerçants.
Quand vous payez votre marchandise à Lubumbashi ou bien Kolwezi, c'est 2 jours à 3 jours, vous avez votre marchandise. Et nous avons aussi des camions qui sont en train de fonctionner très bien. À l'époque, les prix étaient très élevés, mais il y avait un peu une longue durée de faire arriver la marchandise au magasin. Mais pour ce moment, les prix est baissé, mais nous avons une facilité d'écouler les marchandises très vite.
Ces commerçants souhaitent que la route Kasaji-Kolwezi-Lubumbashi soit aménagée afin qu'elle reste praticable même en saison de pluie. Lubumbashi, Denise Mayo, Radio Okapi.
Florent Monkeni, professeur, vous êtes toujours avec nous dans ce studio. On se rend compte que la réhabilitation des routes a un impact presque miraculeux sur les conditions économiques des contrées.
Absolument. Là, on voit, c'est une question simple d'offre et de la demande. L'offre s'est augmentée et les prix ont baissé. Mais l'offre a augmenté à cause de quoi? À cause justement des infrastructures. Mm-hmm. Donc, les infrastructures sont un élément essentiel de la baisse des prix, de l'amélioration des conditions sociales des citoyens.
Mm-hmm.
Mais pour ça, il faut saluer les efforts qu'on fait maintenant pour dans le cadre des 5 chantiers pour construire des routes dans le pays.
Mm-hmm.
Mais en plus de ça, il faut vraiment que ces programmes soient faits à l'optimum parce que d'après les informations que nous avons, c'est pas tellement à l'optimum. Donc
c'est-à-dire la réhabilitation n'est pas complète,
pas complète
ou bien le choix des routes n'est pas toujours bon
et les coûts réels ne sont pas respectés, des surcoûts dus à un certain nombre de facteurs.
Il faut bien que parfois celui qui a eu le marché puisse distribuer des commissions.
Ah, mais on appelle ça les pas de porte, mais si si tout cela rentrait dans les caisses de l'État, ça va.
Le panorama économique de cette semaine prend fin par ici. Merci au professeur Florent Monkeni qui a bien voulu répondre à notre invitation pour commenter et analyser l'actualité économique de cette semaine.
Merci beaucoup.
Merci à Daniel Tambindoni de nous avoir accompagnés dans cette rétrospective. Merci également à Paul Badianyama. Vous ne l'avez pas entendu, mais croyez-moi, il était plus que présent parmi nous. Merci surtout à vous, chers auditeurs, de rester fidèles aux programmes économiques de votre radio. Du lundi au vendredi, dans Écho d'économie, à partir de 18h15, heure de Kinshasa, vous aurez droit à différents reportages, entretiens, ainsi de suite. Le prochain panorama, quant à lui, c'est pour samedi prochain, 12h25, heure de Kinshasa. Kinshasa. Mais d'ici là, chers auditeurs, passez un agréable week-end en compagnie de la Radio de la Paix.